je vais faire une petite suivre. Il a envie que les enfants puissent suivre. Alors, on va continuer du coup notre marche dans l'Exode. Donc là, vous allez voir, on va faire un petit bond en avant et puis plus tard, on reviendra en arrière pour expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? Où on en est un peu de l'histoire de l'Exode? Est-ce que vous avez un peu suivi, peut-être par rapport à la semaine dernière ou les semaines d'avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Exode jusque-là? Oui, pas mal de choses. Ça commence comment déjà dans l'Exode?
Du début.
Bah, on fait un passage rapide, hein, on balaye.
Dieu a suscité un libérateur à son peuple.
Mais pourquoi?
Parce qu'il
était esclave. Ouais, il était esclave en souffrance. Dieu a entendu son peuple et du coup, il leur a suscité un libérateur, ok?
Moïse.
Ouais, c'est Moïse, effectivement.
Après Moïse, il a rencontré Dieu. Il a eu la révélation. Et Dieu lui a donné son plan de route. C'est-à-dire faire sortir son peuple d'Égypte, et c'est Dieu qui allait intervenir par des miracles pour les faire sortir.
Ouais, c'est ça, il y a eu des fléaux. Ok, donc à la suite de ces fléaux, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu des fléaux successifs.
Ouais, pourquoi?
Le dernier.
Pour essayer.
Pour finir par être libéré, ouais.
Et pour essayer de faire plier Pharaon. C'est ça. Plutôt que de le détruire. Mm-hmm. Je vais être miséricordieux à ce niveau-là.
Mm-hmm. Ok, du coup, là, on en est. Donc, il y a eu les fléaux, le peuple est libéré. Après, qu'est-ce qui se passe? Il est libéré, du coup,
il est guidé par Dieu.
Il
est guidé par Dieu.
Ouais, Dieu les a guidés. Voilà.
Dieu les guide dans un cul-de-sac.
Ouais.
Pour qu'ils puissent intervenir et détruire l'armée de Pharaon.
Donc le cul-de-sac, c'est la mer Rouge. Du coup, ils arrivent, ils sont bloqués, Pharaon arrive derrière, et là, ils sont tous très confiants en Dieu, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Ils ont leur barque qui se remplit un petit peu.
Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Dieu ouvre la mer devant eux pour qu'ils puissent passer.
Ouais. Pas que ça. Il y a ensuite, ouais. Il y a quoi après?
Et
il referme.
Ouais. À quel moment il referme?
Quand il y a l'armée de.
Voilà. Ouais. Donc il les délivre vraiment des Égyptiens à ce moment-là. C'est terminé. L'oppression est finie. Ok. Du coup, ils ont traversé la mer Rouge. L'histoire, l'Égypte, tout ça, ça semble être derrière eux. Et donc ils arrivent dans un endroit de paix et de bonheur.
Non,
fraîcheur. Non.
Tout le lait et le miel.
Mais ouais, ils aimeraient bien. Mais c'est pas le cas. Ils se retrouvent dans quel endroit?
Dans
le désert. Et là, encore une fois, ils font confiance à Dieu. Ils restent les yeux fixés sur lui et ils avancent avec lui. C'est le cas?
Pas du tout.
Non. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils réagissent?
Il leur faut que 3 jours pour se plaindre et se dire on était mieux en Égypte.
Voilà, ça, ils regardent en arrière, on était mieux avant, pourquoi tu nous as fait sortir, on va tous mourir.
Qu'est-ce que t'as fait Moïse de nous sortir de là, c'est ça. Nous tuer.
Et face à ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche, il les détruit. Qu'est-ce qu'il fait Dieu face à ses plaintes?
Il prend soin de son peuple.
Ouais, il prend soin de son peuple, il leur donne ce qu'il faut, il leur donne de l'eau, de la nourriture. Effectivement. Ok, donc là on en arrive ici et puis il se passe un grand événement qui marque toute l'histoire de la suite du peuple d'Israël d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse, avec Dieu?
Les 10
commandements, effectivement. C'est ça. Donc Dieu parle, Dieu se révèle. Et le peuple, finalement, il se met à craindre Dieu de la bonne manière. C'était vraiment de la peur. Et là, ils comprennent un peu plus la crainte de Dieu. Donc on en est là.
Il y a une alliance qui est vraiment scellée entre le peuple et Dieu.
Ouais.
Et la montée
appartient à Dieu.
Ouais, voilà. C'est ça. Le peuple appartient maintenant à Dieu. L'alliance a été scellée au travers aussi des 10 commandements.
Il va montrer sa puissance. Et là il va montrer son autorité.
Ouais.
Il va montrer qu'Israël c'est le petit peuple, les Égyptiens c'est un gros peuple et pourtant il a fait sortir. Mm-hmm. Et maintenant, lui c'est Dieu pour Israël.
C'est ça, c'est ce qu'il va vouloir leur expliquer que c'est leur Dieu et il va se montrer comment il est, en fait. On voit dans l'Exode, au fur et à mesure, Dieu montre des aspects de sa personnalité pour que le peuple le connaisse, parce qu'il ne le connaissait pas à l'époque. Voilà. Mais donc, on en est là. Et là, on va faire un... Oui.
On avait été jusqu'au 24.
Ouais, on était allé jusqu'au 24, le début de la loi.
On lui donne les détails de la loi.
Voilà, il donne les détails de la loi. Et donc là, en fait, on arrive au moment où il parle du tabernacle. Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui. On en parlera, je crois, la prochaine fois, je pense. On va faire juste un petit bond en avant jusqu'au chapitre 32 à 34. Donc vous pouvez prendre ces pages 63. Jamais. Exode 32. On va lire que le chapitre 32 et on va travailler un peu sur le 32, 33, 34. Mais le gros de l'histoire est quand même dans le chapitre 32.
Et on verra la semaine prochaine pourquoi justement.
On a fait ce saut.
Pourquoi Moïse il fait ce saut.
Alors, est-ce que vous voulez lire peut-être 5 versets chacun, si on fait le tour. Tu veux commencer un peu?
Je vois pas trop.
Hein? T'es pas obligé de lire.
Ouais, parce que.
Oui, t'es pas obligé, on fait le truc tout ça. Hein.
Ça bouille. Oui,
t'en mets pas.
Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau d'or en métal fondu. Ils dirent alors : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria : Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel.
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse : Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices, et ont dit : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton Dieu, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans la montagne et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même : Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'ils avaient déclaré vouloir faire à son peuple.
Ah, pardon. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse : Il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit : Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne.
Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron : Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ? Aaron répondit : Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, Nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Il en est sorti ce veau.
Vu que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit : qui est pour l'Éternel ? Ils viennent vers moi. Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça : voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée aux côtés, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit : Vous avez aujourd'hui été établi dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au même prix que votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction.
Le lendemain, Moïse dit au peuple : vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse : c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple jusqu'au bout. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron.
Voilà, donc je rappelle encore une fois, on vient d'avoir les 10 commandements, on en était là. Après, il y a tout le texte sur le tabernacle, on arrive à notre texte. Donc, que fait le peuple au début du chapitre 32 ? Donc, c'est celui qu'on vient de lire. Que fait le peuple ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il s'impatiente.
Ouais, il s'impatiente, il fait un coup dieu. Ouais. C'est-à-dire, il fait un faux dieu. Puis on peut expliquer un peu plus, hein, c'est juste pour détailler ce qu'on vient de lire.
Ouais. C'est un dieu en métal.
Ouais.
Il n'a plus confiance en Dieu.
En fait, il transgresse la loi que venait de leur donner Dieu.
Ouais.
Il ne fera pas d'image taillée.
Il va le voir Dieu, mais il va le voir.
Ouais, d'accord. Alors, donc là, on n'est plus dans les raisons. Donc, on peut passer sur ça. Hein. Pour quelles raisons ils font ce veau en métal ?
Ah oui, il faut le voir.
Ils ont plus confiance en Moïse.
Ils ont été accompagnés tout le temps et là, ils se retrouvent tout seuls.
C'est ça.
Alors, est-ce qu'ils se retrouvent vraiment tout seuls quand même ?
Ils croient qu'ils se retrouvent.
Est-ce qu'ils se retrouvent vraiment tout seuls ?
Non.
Qui en fait est là pour veiller sur eux ? Il y a Aaron quand même qui est censé là pour veiller sur eux. D'ailleurs, on l'a lu, hein, on y viendra après, mais il se fait un peu remonter les bretelles après. Hein. Ok, donc là, il y avait Aaron qui était censé être là pour veiller sur eux. Et donc on en était aux raisons. Pourquoi ils font ça, hein. Ils se retrouvent tout seuls, oui et non, on va dire.
Oui, puis ils veulent voir Dieu, je ne sais pas, parce que la fois d'avant, quand la montagne tremblait, plein de fumée.
Ils ont eu peur, hein.
Oui, ils avaient peur et ils disaient, oui, c'est vrai. Ils disaient, c'est toi qui prends l'intermédiaire, on ne veut plus que Dieu nous parle, on a trop peur.
Ouais, c'est ça.
Ça les sécurise peut-être, ils ont besoin de.
De voir quelque chose.
De voir quelque chose.
Pourquoi chuter avant ?
En tout cas, c'est pas du tout dit dans le texte, je pense pas. En fait, ça a été dit tout à l'heure, hein. Quelqu'un a dit. Quelqu'un l'a déjà un peu dit tout à l'heure.
Je pense qu'aussi. Ils ont des réminiscences de ce qui se passait en Égypte.
Ouais.
Et en même temps, au départ, ils étaient habitués à voir des dieux en statues,
etc.
Et donc, pour eux,
ça leur manque.
C'est tout à fait naturel, presque, de revenir un petit peu à ce qu'ils avaient auparavant.
Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que eux, leur connaissance, il y avait une figure qui représentait le dieu en question. Ah. Alors en Égypte, il y avait plein de dieux. Là, eux, ils avaient un dieu, même si c'est nous des dieux, hein, quand même.
Oui, c'était ça.
Ok, mais donc du coup, je crois que c'est vraiment ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'ils s'impatientaient. Ils attendaient, puis Moïse n'y venait pas, et puis voilà. Donc au final, ils ont dit, on va faire par nous-mêmes.
Hein. Il est parti.
Voilà. Alors, je pose la question, tu as répondu un peu, papa. Le peuple savait-il qu'il ne devait pas se faire un veau en fonte ? T'as un peu répondu.
Alors, il y a un indice dans notre texte, et après, la vraie réponse dans le chapitre 20 qu'on a déjà travaillé. Ouais. Alors, dans notre texte, là, d'aujourd'hui, à quel endroit on voit qu'en fait, ils savaient déjà ? Ils étaient au courant qu'il ne fallait pas le faire.
C'est quand c'est Dieu qui parle, Dieu lui-même dit à Moïse, ça y est, ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite.
Voilà, donc c'est Dieu lui-même qui dit, ben, c'est, voilà, je leur avais prescrit quelque chose et ils ont désobéi volontairement. Et après au chapitre 20, versets 4 et 5, je vais le lire comme ça, ça ira plus vite. Donc c'était les 10 commandements, et Dieu a dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, donc les produits, hein. Et tu ne les serviras pas, car on... Ah non, j'ai oublié de lire. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà. Donc, c'est quand même assez clair. Voilà. Alors, quel est le rôle d'Aaron dans cette affaire?
Il devait protéger le peuple, il devait garder le peuple dans la bonne voie.
Il écoute le peuple au lieu d'écouter lui. Enfin,
oui, il écoute le peuple, oui.
Il devait faire partialité, du coup, il ne fait pas ce qu'il faut.
Voilà.
Alors, est-ce que lui, il pense qu'il ne fait pas ce qu'il faut? Est-ce qu'il se pose des questions?
Je me suis toujours demandé s'il a fait ça parce qu'il avait peur du peuple, oui, ou s'il a fait ça parce qu'il était d'accord avec le peuple.
En tout cas, là, il ne s'est pas précisé, il n'y a aucun indice qui dit qu'il avait peur. À part après dans son discours où il dit... Enfin, on y viendra après, on ne veut pas en avancer trop.
Comme on dit, c'était un faux cul en fait. Après, il s'est dévoilé envers le peuple, en fait, mais lui, c'est lui qui a initié finalement le vaudeau.
Ben oui, parce qu'il demande de l'or à tout le monde.
Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au verset 2, qu'est-ce qu'il demande à Aaron, justement? Est-ce que quelqu'un veut le dire?
Ben oui, de l'or à tout le monde.
Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, apportez-les moi.
Voilà, donc c'est quand même lui qui lance, il fait moi de produit, et lui donne la solution quand même. Hein.
C'est ça. Et puis, après, franchement, le moule, il n'est pas venu là tout seul. Hein.
Oui, oui.
Après, ça dépend comment... Comment on voit le veau d'or? Est-ce que c'est un autre dieu? C'est peut-être ce que demandaient les Israélites.
Ouais.
Ce qu'ils disent, oui, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte.
Oui, oui.
Nous ignorons ce qu'il est devenu.
Après,
c'était pas vraiment l'homme qui avait sorti
d'Égypte. Ah ben non, on va en parler aussi après, par rapport à la réponse de Dieu aussi.
Est-ce que la proposition de Aaron, elle n'est pas un peu controversée entre les deux?
Alors, où est-ce qu'on le voit? Il y a un verset qui nous donne un indice sur ça. Sur le fait que Aaron, c'était pas pour lui, en faisant le veau, peut-être qu'il pensait représenter le dieu qui les a fait sortir des
Juifs.
Oui, il a peut-être pensé trouver le milieu.
Ah, oui, le verset 5, on dirait qu'il revient un peu. Oui,
oui, pourquoi alors? Pourquoi le verset 5? Qu'est-ce qu'il veut dire
maintenant? Je rassemblais devant l'autel et en l'honneur de l'Éternel.
Voilà, lui, quand même, il revient au nom de l'Éternel.
Est-ce que ce qu'il voulait, c'est pas ce que veulent aussi les catholiques aujourd'hui, avec les représentations? Est-ce qu'on peut le comparer ou pas?
J'avoue que je sais pas pourquoi ils font des représentations.
Quoi, les catholiques?
Ouais.
Oui.
Ils ont fait un amalgame entre les païens et les chrétiens. Et pour attirer les païens, ils ont pris un peu de culte païen. Et d'où ces statues, d'où Noël, d'où tous les cultes qu'il y a, c'est parce que c'est les païens qui les faisaient.
D'accord. Oui, mais ils y croient vraiment, quoi. Ils prient les
saints. Ah, mais c'est rentré.
Oui, papa, il a fond, hein.
Faut pas oublier que les premières églises dans l'Empire romain, c'était les temples païens qui avaient été recyclés quelque part. Ils avaient enlevé des statues, ils en avaient remis d'autres à la place, hein, pour pas choquer le peuple au début. En fait, c'est pour faire une transition soft, comme on dit, un petit peu. Et donc, ils ont commencé les syncrétismes un petit peu comme ça,
ouais,
à, en remplaçant les hôtels païens par des hôtels soi-disant chrétiens, etc. Mais quelque part, effectivement, ce sont des syncrétismes. Et de là, après, sont apparus les saints, Marie et compagnie. C'est ça. Quoi.
Mais du coup, est-ce qu'on peut affirmer que c'est le rôdeur qui pose problème à Dieu, ou est-ce que c'est plus la représentation que ça fait
Peut-être qu'il y aura un peu des réponses.
Oui, on va y venir après parce que ça continue, mais effectivement, du coup, ça va rejoindre un peu cette question-là.
Mais, je pense que Aaron et Moïse, ils étaient investis par Dieu. Et
Aaron,
pour sortir
des choses. Aaron, il était l'accompagnant aussi.
Voilà, parce qu'il pouvait y avoir la langue lourde, il était un peu comme moi pour lire. Et ce que je pense, c'est ce qu'il a fait, c'est quand même grave, quoi.
Ah, oui, il y a Aaron.
Aaron, c'est grave.
Le rôle d'Aaron, c'est pas anodin.
Même s'il voulait faire une représentation de Dieu, il y a quand même, tu te représenteras pas des idoles. Et il le savait très bien.
Ah ben c'est, oui, ça venait d'être dit.
Mais il ne savait pas quand il a jeté les anneaux et tout ça, il ne savait pas ce qui allait sortir.
Mais bien sûr que si.
Ben si, ils ont mis un moule, non?
Ils ont fait un moule.
Ah, ben bah oui, le moule. Okay. Tu fais un moule de veau, tu ne sors pas à l'école.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il jette les anneaux par terre et qu'il sort un
bon d'or. Ouais,
c'est vrai. Bon, en tout cas, si on garde cette réflexion en tête, on va continuer à avancer.
Le verset 4, quand il dit, quand il présente en fait le veau, il leur dit, voici Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir.
Oui, c'est au pluriel quand même.
Dieu s'est quand même présenté comme je suis le dieu qui t'a fait sortir d'Égypte.
Après, ça dépend des traductions. Ça dépend des traductions. Il y a les traductions de ton Dieu, d'autres traductions de Dieu, et on peut traduire l'un ou l'autre, quelque part.
Pourquoi il y a le mot, c'est ton Dieu.
Mais ça dépend des quoi, il y a tous les
traductions. Pourquoi il marque tes dieux, il n'y en a qu'un, il n'y a que le mot. C'est pas comme Dieu.
En tout cas,
moi, les commentaires que j'ai lus, ils ont tendance à mettre le singulier pour ce que là.
Oui, parce qu'il n'y a qu'un.
Mais c'est vrai, ça.
Plutôt le singulier, mais c'est vrai qu'on peut traduire les ou le spécialiste, en fait, les deux.
Ouais.
Tout ce qui est traduit des livres, c'est le spécialiste.
Ouais. En tout cas, c'est quand même, c'était pas. Déjà, c'est pas Dieu avec une majuscule. Ça montre quand même le détournement. Voilà.
Pour eux, il n'y a pas de différence.
Ouais, c'est ça. Ils sont pas au même endroit.
Après, majuscule, minuscule en hébreu, ça n'existe pas. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, là, ça veut dire qu'ils ne parlent pas de l'éternel, justement. C'est un autre, c'est autre chose. Non, mais nous, dans la Bible, quand c'est traduit,
dans la Bible, oui,
quand
ça,
on parle de Dieu.
Ça existe, hein, mais ça existe quand même, les majuscules.
Ouais, mais c'est surtout sur les acronismes.
Surtout les débuts de phase
de départ.
Ça n'a pas trop changé, parce que maintenant, pour avoir Dieu, il y a tout un tas d'intermédiaires. T'as Marie, t'as les saints.
Oui,
t'as tout un tas d'intermédiaires, et c'est comme des vaudours, c'est des statues. T'as la statue de Marie, Saint-Pierre, Saint-Antoine de Padoue. Ma mère, elle m'a parlé de Saint-Antoine de Padoue.
En tout cas, c'est vrai que ça donne à réfléchir.
Alors, on prie tous ces gens avant de prier, vraiment, Jésus.
C'est ça.
Ça, on va y venir aussi après. J'avance un peu parce que tu t'avances sur la suite, tu verras.
Ah, pas
mais c'est pas grave.
On va
dire
une application.
Ouais, mais c'est intéressant. Hein,
c'est le bourdon.
Oui, c'est clair. Donc, pour l'instant, on verra après un peu plus à Aaron dans cette histoire. Mais quelle est la réaction de Dieu face à cette offense? Comment il réagit?
Il réagit mal.
Alors, mal, ouais.
Il va les punir après?
Ouais,
Moïse, il parle à Moïse.
Mmh. Ouais.
Il dit, retourne voir
ton
peuple.
Ils sont corrompus.
Ce qui est rigolo, c'est chaque fois que le peuple se détourne de Dieu, Dieu dit, c'est ton peuple.
Voilà.
C'est le peuple de Moïse. C'est pas rigolo, mais.
C'est des points d'humour, moi, de la part de Dieu.
C'est plus mon peuple, c'est le tien. Alors, maintenant, réagis. D'ailleurs, on se demande d'ailleurs s'il n'y a pas une mise à l'épreuve également de Moïse à ce niveau-là.
Les responsables aussi.
Qui se prennent pas la grosse tête.
C'est un peu comme les pasteurs responsables des églises.
Ouais, ça.
Ils rendront des comptes. Ils rendront des comptes pour l'église aussi.
C'est vrai.
Il y a le pasteur et le pasteur est responsable des brebis.
C'est ça.
C'est ses brebis. Moi, je le vois comme ça.
Oui, mais c'est vrai, hein.
Donc il faut faire attention.
Il est responsable de comment il dispense.
Oui.
Chacun est aussi responsable, on va le voir dans le texte.
Et oui, à soi-même.
C'est clair.
Le texte montre quand même clairement.
Mais dans le peuple, il y en avait qui n'étaient pas d'accord, mais ils ont été obligés de.
Oui, ce ne sera pas condamné comme.
Alors, il y en a qui n'étaient pas d'accord. En tout cas, on a un exemple dans le texte, un seul. Mais on. Il y en a qu'un qui semble être un peu à part. On l'a vu.
C'est Josué.
Ouais. C'est le seul, quand Moïse y descend, c'est le seul qui est. On dirait qu'il attend Moïse au pied de la montagne. Hein.
Ouais, je pense qu'il était monté un peu,
plus.
En tout cas,
il n'était pas vraiment en bas.
Ouais, mais il n'était pas avec les autres.
Moi, je dis, il y a Josué, il n'en a rien, mais peut-être que dans le peuple, il y en avait des autres.
En tout cas, là, c'est pas dit. Il n'y a pas d'opposition qui s'affiche. À aucun moment, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire arrêtez, Dieu, il n'a pas dit ça.
Ils sont en train de s'amuser.
Voilà. Bon, du coup, dans la réponse de Dieu, ce qui est rigolo, c'est ça, c'est qu'il reprend bien les termes du peuple. Il dit, c'est ton peuple à Moïse.
Ouais.
C'est ton peuple, c'est ce que tu as fait sortir du pays d'Égypte, parce que c'est le peuple qui a dit ça au début. C'est ce Moïse qui nous a fait sortir. Donc Dieu, il reprend, il titille un peu pour dire, voilà ce qu'il pense en fait. C'est que c'est toi qui les a fait sortir. Donc Dieu, il est... Tu disais, Sophie, toi
okay.
Je ne sais plus comment t'as formulé pour dire que la réaction de Dieu.
Comme ça.
Il est pas. Ouais, il est en colère, j'irai même plus loin.
Alors après, on va voir qu'il va aller plus loin.
Alors il est en colère jusqu'à quel point?
Il va faire disparaître.
Ouais, c'est à quel verset que tu veux voir hein?
Le 10.
Ouais. Verset 10. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Donc c'est quand même, c'est pas une petite colère où on est fâché et tu vas être puni. Là carrément il veut les détruire.
C'est là où je me demande si n'est pas Moïse à le prendre aussi à ce niveau-là. Parce qu'on comprend bien que le dessein de Dieu, c'est pas d'éliminer son peuple complètement. Mais il le dit à Moïse par contre.
Oui, mais il lui dit quand même qu'il fera de lui une grande nation.
Oui, peut-être, ouais. Mais c'est justement. Est-ce qu'il n'est pas en train de le mettre à l'épreuve à ce niveau-là?
Il fera de toi.
Oui. Est-ce qu'il n'est pas en train de le titiller pour savoir si Moïse va abandonner le peuple également?
Oui. Quand on va y venir après, parce qu'il y a quand même une grosse question ici, vous verrez après. Donc, pourquoi Dieu est en colère? On a répondu un petit peu.
Ouais.
Il y a trois choses j'ai relevé.
De quoi?
Pourquoi Dieu est en colère?
Parce que le peuple s'est corrompu.
Ouais, voilà. Le peuple s'est corrompu, ok.
Ils se sont écartés de la voie que tu leur avais.
Ouais, donc ils ont désobéi. La désobéissance, moi, c'est mon premier point.
Ils sont réfractaires.
C'est-à-dire.
Ils sont impatients.
Ok. Est-ce que c'est ça qui les met en colère, Dieu, qui sont impatients?
Ils vont à l'encontre de ce que Dieu leur dit.
Ouais, ça rentre dans la désobéissance un peu. Hein.
Bah, pour moi, ils sont impatients parce qu'ils attendent Moïse qui vient pas et.
Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est pour leur impatience que Dieu les punir?
Ils sont plus, enfin ils restent dans ce que.
Ils ont le couperet.
Ouais, ils ont la couperet, la désobéissance, ok.
Ils ont après tout ce qu'il a fait, ils continuent à.
Au verset, il pêche.
Il rejette Dieu quelque part.
Bah oui, il rejette.
Ouais, alors où est-ce que tu crois qu'il rejette Dieu?
Le vrai Dieu, quoi. Ouais.
À part le fait qu'ils font le veau d'or, il y a autre chose. On en a parlé hein, déjà aussi. Hein,
tu l'as dit.
Parce qu'ils sont prosternés.
Ils ont dit Israël, c'était Dieu. Non, parce qu'ils disent que c'est Moïse qui les a libérés et pas Dieu.
C'est ça, il dit ce Moïse qui nous a fait sortir. En fait, au lieu de donner la gloire à Dieu, c'est quand même Dieu qui a œuvré.
Dans
les 8. Donc en fait, non seulement ils ne reconnaissent plus Dieu comme leur sauveur, celui qui les a délivrés, en plus ils désobéissent. Et il y a un autre point que j'ai noté qui va avec le reste. Et après, au niveau du caractère de Dieu, quelle facette de son caractère l'amène à se mettre en colère?
Il n'aime pas le péché.
Mmh. Oui, il n'aime pas le péché, il est juste, c'est vrai. Hein. C'est quelque chose qui est écrit dans notre texte. Hein.
Ma colère.
Pourquoi il est en colère?
Peut-être c'est écrit dans le chapitre 33. J'ai perdu le verset. C'était dans les 10 commandements aussi. C'est quel aspect du caractère de Dieu l'amène à se mettre en colère? Pourquoi il se met en colère? Est-ce que tu trouves le verset? Parce que j'en ai trouvé plus.
Je crois que c'est le chapitre après, il dit qu'il est jaloux.
Sinon, le deuxième commandement.
Tu veux dire dans le chapitre, dans un autre chapitre? Non, mais là, c'est redit dans notre texte.
Oui, c'est vrai, moi je l'ai pas mis.
Ah oui, là. 34, verset 14, déjà, ça y est. 34, verset 14. Tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, finalement, c'est ça. Le peuple a complètement oublié Dieu, l'a laissé de côté par rapport à la délivrance en Égypte. Ils lui ont désobéi, ils ont fait des orgies, ils se sont bien amusés. Et Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Donc forcément, il a été obligé de réagir. Effectivement, il y a l'aspect de la sainteté, ils ont désobéi, donc aussi il est juste, il doit les punir par rapport à ce qu'ils ont désobéi.
Et pour l'histoire de l'immoralité sexuelle, en fait, Paul, il le reprend dans un Corinthien. Je pense que le verset, Verset 1 et quelques dit: frères et sœurs, je ne veux pas que vous laissiez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, etc. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés dans le désert, puis sont morts dans le désert. Alors, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin qu'ils n'ont pas de mauvais désirs comme eux ont eu. Ne devenez pas idolâtres quand certains en font les faits, il est écrit: le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, etc. En tout cas, il décrit un peu plus
les
conséquences éthiques dans la vie. Suite aux lois qu'on avait vues, on avait parlé des lois qui doivent toucher le quotidien. Ben là, en fait, quand il se prosterne devant cette représentation, ça inclut aussi les conséquences en fait dans la vie. C'est pas juste. C'est déjà très important de célébrer Dieu, mais en fait, ça a des conséquences éthiques dans le comportement. Ça découle en fait de la
désobéissance. Moi, j'ai une question. C'est un Dieu jaloux, mais nous, quand on est jaloux, c'est un péché.
ça dépend, par exemple, si tu es jalouse parce que ton mari il va s'accoquiner, ça c'est une jalousie qui est saine. C'est logique. C'est... Après, si t'es jaloux parce que t'es envieux, par exemple, c'est pas la même chose.
Dieu, il prend souvent cette histoire. Il prend l'image d'une femme qui se prostitue. Le mari, il y a une jalousie qui est.
Oui, c'est normal.
Ça, c'est une jalousie qui est logique et qui est bonne. Tu peux pas accepter. Et là, c'est vrai que pour Dieu, c'est la même chose.
C'est fort se prostituer à leur Dieu.
Ben oui.
Ah oui, c'est vrai.
Là, ce texte, c'est vraiment si on prenait l'image d'un couple qui vient de se marier, la mariée qui va se mettre avec un des invités de la fête. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Ils viennent juste d'avoir l'alliance. Ils viennent juste de signer le pacte avec Dieu et ils se détournent et ils vont vers d'autres dieux.
Pour Dieu, ils se prostituent.
Oui, c'est ça.
Bah oui, ils se prostituent.
En tout cas, ils l'ont trompé avec un autre Dieu.
C'est pas une jalousie malsaine.
Parce que toi, la jalousie, l'autre que tu dis, c'est plus d'un côté envieux.
Oui, c'est l'envie, je pense.
Désirer quelque chose que quelqu'un d'autre a.
Oui, possède. Et... Moi, c'est genre toute la jalousie.
La convoitise.
Mais ça s'appelle jalousie aussi.
Oui, mais c'est vrai que c'est le même mot.
Ouais. On oublie que dans l'alliance, en fait, il y a les deux côtés. Dieu fait alliance et le peuple, il a aussi fait alliance.
Mais en hébreu, la jalousie, c'est le même mot comme nous, non? Non.
Je sais pas.
Non.
Non. Qu'est-ce qu'il laisse un peu comme porte ouverte? À quel moment il laisse une option Ou est-ce qu'il laisse une option de
ne pas les détruire? Il voulait les faire disparaître, mais en même temps, il va faire une grande nation.
C'est Moïse qui prend un peu la défense.
Oui, c'est lui. Et entre parenthèses, ils mettent Yahweh Kana. C'est-à-dire que c'est un mot composé quand il dit car son nom c'est Seigneur à la passion jalouse. C'est le nom en fait de Dieu, il est Dieu jaloux. Passion jalouse. Okay. Et ils ont traduit ça pour montrer que c'est pas juste une jalousie, mais une passion unique en fait, qui s'attend à une réponse.
Donc Dieu il invite Moïse à descendre de la montagne. Donc Moïse descend, il voit tout ça et comment il réagit?
Qui ça, Dieu?
Non, Moïse, oui. Ah, Moïse. Là c'est la réaction de Moïse maintenant.
Bah, il est choqué, il est en colère lui aussi.
Mmh. Oui, puis
Il casse les tables de la vie.
Ouais. Il casse les tables de la vie. Il est très très en colère quand même. C'est les tables, c'est l'écriture, c'est Dieu qui a écrit sur ces tables. Et donc il les brise, qu'est-ce que ça peut représenter le fait qu'il brise les tables, Moïse?
Bah, c'est fini, enfin, c'est la fin de...
Ouais, ces tables, elles représentaient quoi?
Les
tables, elles représentaient l'alliance.
L'alliance.
Donc Moïse, il les brise pour dire que vous venez de briser l'alliance.
C'est ça.
Voilà, effectivement, il est très en colère. Et donc il va voir Aaron, et Aaron, qu'est-ce qu'il lui explique?
Des excuses.
Ouais, c'est-à-dire...
Mais tu sais quand même que ce peuple est porté au mal.
Ouais.
Oui, mais ce peuple est porté au mal et lui.
Ça veut dire quoi, ouais? C'est... En fait, il est en train de rejeter la faute. Mais c'est le peuple. C'est eux. J'avais pas le choix. Ils sont portés au mal.
Ils m'ont jugé.
C'est la femme qui m'a donné le fruit.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pensé pareil. Puisque on dirait Adam et Ève. C'est pas moi, c'est l'aile.
C'est le serpent.
Voilà. Donc, est-ce que Aaron il se remet en question?
C'est la pomme.
À cet endroit-là, en tout cas, est-ce qu'Aaron il se remet en question ici? Quand il donne son explication.
C'est pas lui qui ne se remet pas en question.
Lui, il ne se remet pas en question du tout là.
C'est le peuple, il est dur.
Donc, du coup, si on pense un peu à nous, par rapport à justement le comportement d'Aaron, sa réaction.
C'est par hasard, quoi.
Ouais.
À quelque part, il dit. Je l'ai jeté au feu et il en a sorti ce mot.
Oui, il a sorti et
comme
s'il ne
savait pas que c'était un mot qui allait sortir.
Ouais, c'est magique, tu vois. Ouais. Il est sorti. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo à la fois pathétique, quoi. Il est vraiment.
C'est là où on verra la semaine prochaine le pont. Vous repenserez à cette étude quand. En fait, dans le tabernacle, juste avant et après. Ils collectent l'or pour en fait ils prévoient ce qu'ils vont faire. L'or pour faire le tabernacle.
Ah, ouais.
Là en fait ils collectent mais
pour faire le mot.
Ouais.
C'est ça.
Donc, en fait il y a des trucs qui semblent un peu similaires.
Oui c'est vrai.
Bah oui ouais. Et c'est vrai que nous ça il faut qu'on fasse attention aussi parce que là Aaron il a péché lui aussi. Sauf qu'il essaye de se dédouaner. C'est vrai que des fois, nous aussi, on essaye de justifier un peu notre péché. J'ai fait ça, je sais que c'est pas bien, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Et en fait, il faut qu'on apprenne aussi à appeler le péché par son nom. Un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de bonne excuse pour avoir péché, même si au fond, voilà, il y a toujours une excuse.
C'est humain.
Mais c'est pas une bonne excuse. Ouais, ouais. Et on cherche toujours à se détourner. Après, on a parlé aussi du rôle d'Aaron en tant que responsable. Il était responsable du peuple. C'est lui qui aurait dû leur dire qu'est-ce que vous faites ? Dieu a dit ça. Et nous, en tant que responsable, voilà, quand on a une tâche dans l'église, ou même on peut veiller les uns sur les autres aussi. C'est important de savoir dire là, tu t'égares. Là, ça va pas. Je pense qu'il faut qu'on sache se remettre en question et faire attention à bien connaître la parole.
C'est l'effet de groupe.
Oui.
Aaron, il a subi l'effet de groupe. Il était tout seul. Ils lui ont dit, il faut faire ça, c'est comme ça. Aaron, comme il était responsable, il a pris le dessus.
Oui.
Il a pris la pression aussi.
Ouais, c'est ça.
C'est les moutons, quoi.
Ouais, c'est. Mais il faut faire attention, c'est facile de se faire entraîner.
Aujourd'hui aussi, ouais.
Après, là, ça nous semble tellement évident, mais des fois, c'est dans des plus petites choses. Hein.
Oui.
Quand on lit ce genre de texte, on se prend souvent un peu pour Moïse.
Oui,
ça. Ou les autres.
Ouais.
Mais on est plutôt le peuple.
On est plutôt. Ce que j'allais dire.
C'est
un peu chiant de s'être arrivé au. C'est important, même Pierre. Ça lui est arrivé également, quand il. Il s'est retiré parce qu'il voulait pas, il voulait pas manger avec les non-chrétiens, avec les non-juifs. Il s'est fait reprendre par Paul. Mm-hmm. Parce que finalement, il était hypocrite, là aussi. Donc ça arrive
Ça
peut arriver à
ça montre aussi possible. Que les plus solides, c'est par exemple Moïse, mais Moïse a eu affaire à l'Éternel directement.
Oui.
Aaron, lui, il a jamais vraiment eu affaire à Dieu.
Il est monté quand même sur la montagne avec Moïse. Le dernier texte des 10 commandements, il était monté.
Ouais, donc,
ils ont vu la montagne.
Ouais, donc, oui,
montagne. Puis, avec tous les miracles qu'il a fait.
Ouais, enfin, ça prouve qu'il est quand même. Il est fait.
Après, c'est ça. Nous, on est au bénéfice de la parole. On a beaucoup de recul sur les choses. Et même comme ça. Nous aussi, on va pécher, on peut se laisser entraîner par d'autres, et sur des choses qui sont peut-être plus subtiles, mais ça peut arriver.
Et nous, on avait, par rapport au peuple, le Saint-Esprit avec nous.
Qui nous guide,
On a quand même un assistant.
Oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas.
Eux, ils n'avaient rien, quoi.
Et qu'on peut attrister aussi.
J'allais y venir, faut faire attention, parce que là, on a vu un aspect de Dieu qui est un Dieu jaloux. Et face à cette jalousie, il voulait détruire le peuple. Et nous, on a même Dieu en nous. Donc, il faut quand même faire attention. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait la conscience sans avoir peur, mais avoir la bonne crainte de Dieu. Mmh. Et se dire, attention quand même, c'est un Dieu jaloux. Quand on met des choses avant lui, là, ça se trouve que c'était un autre Dieu, c'était un vaudan. Mais nous, on en a aussi dans notre vie. Il faut faire attention.
On le dit à Rome, des fois.
Ah oui,
parfois.
Et puis, on se trouve des excuses. Voilà, on dit oui, j'ai fait ça, mais parce que si, mais parce que ça.
Ça.
Voilà, et on essaie de se convaincre à nous-mêmes aussi que c'était la bonne
chose. Moi, c'est inoffensif.
Oui.
Mais ce que le texte montre un peu ici, quand on parle de l'idolâtrie en général, c'est qu'on va ressembler à qui on adore, ou ce que l'on adore. On va finir par ressembler.
On est quand même désigné comme le coupable. Hein.
En tout cas, Moïse, il s'attaque, il s'en prend surtout à lui. Ouais.
Oui, moi, c'est
juste. Parce que c'était le responsable,
c'est ça.
Mais on va voir après que.
Et ceux qui ont été.
Dieu, il va punir ceux qui ont péché.
Oui.
23 000.
Ah, ouais.
23 000 qui sont.
Ouais. Mais pourquoi il parle de 23 000 et les 23 000
Non, 3 000.
3 000.
Ben là, on était où là.
Ah, tu parles dans les Corinthiens.
Oui, que tu as lu, Paul.
Oui, parce qu'en fait, il reprend plusieurs épisodes.
Une question. Est-ce que ceux qui ont été détruits... Parce que Jésus n'est pas mort pour les racheter encore. Ils sont détruits définitivement.
Ceux qui ont été détruits.
Les 3 000.
Comment ça, définitivement?
Est-ce qu'ils
sont ressuscités en parachèvement au temps de la paix, ou non, mais Jésus n'était pas mort encore,
il n'avait pas acheté le cœur.
Donc s'ils sont détruits, ils sont détruits. Ils n'existent plus.
Après, le texte lui-même, en tout cas, n'y répond pas.
Oui, mais la logique des choses, on est sauvé par la croix, par Jésus.
Oui, mais ceux d'avant qui n'avaient pas Jésus, ils faisaient des sacrifices, mais il y en a des sauvés.
Mais s'ils ont suivi la loi, qui est très difficile à suivre, ils seront. Ça, je ne suis pas Dieu pour le dire.
Non, mais ils avaient des sacrifices pour.
Oui. Pour les sacrifices, pour, comment on dit, annoncer la mort, la résurrection.
Vous avez les sacrifices d'expiation.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Donc en fait, quand il péchait, il devait faire un sacrifice d'expiation avec le cœur.
Voilà.
Mais eux, avec le cœur.
Avec le cœur. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, avant que Jésus puisse venir, les juifs qui étaient de cœur appartenaient à Dieu, quand ils faisaient un sacrifice d'expiation parce qu'ils avaient péché, parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche, comme disait David, ces croyants, en fait, quand ils faisaient le sacrifice, ils comprenaient très bien que le sacrifice, que l'agneau
qui...
C'était une vie à leur place.
Contre
c'est pour ça qu'ils mettaient la main sur le veau ou sur le bœuf.
Tout à fait.
Pour s'identifier au sacrifice et dire à Dieu, c'est moi qui devrais mourir, mais c'est lui qui meurt à ma place.
Oui. Ça, c'est Jésus,
la jonction en fait. Entre Jésus
et voilà, c'est la préfiguration de Jésus. Mais eux, ils n'avaient pas tout ça.
Mais si, ils avaient.
Non, ils n'avaient pas le sacrifice propitiatoire encore, puisque le tabernacle n'était pas fait.
Après, en tout cas, il y a l'histoire de cœur.
Plus la semaine prochaine, parce qu'en fait, là, Moïse, il fait exprès de...
Pardon.
En fait, il fait exprès chronologiquement de placer le mot d'or
entre les deux.
Il y a un choix...
Entre les deux.
Ouais, c'est une question que je...
Donc, ça d'avant et
ça part du tabernacle. Il y a la construction du tabernacle avant, il y a la construction après. Et il raconte le mot d'or au milieu. Mais je laisserai ça pour ça.
Si on avance un petit peu, si on reprend l'image d'un couple, donc là on a l'épouse, c'est le peuple qui a désobéi, qui s'est détourné. Dieu, qui serait l'époux, qui est en colère. Et au milieu, il y a Moïse, qui joue un peu le rôle de médiateur,
ouais,
entre les deux, qui fait
des
allers-retours entre les deux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait au verset 11 à 13, pardon. Voilà.
Chapitre 32.
Ouais, chapitre 32, toujours pour l'instant.
Il intercède.
Ouais.
Pour le peuple.
Ouais, il intercède en faveur du peuple, auprès de qui ?
De Dieu.
Ben, auprès de Dieu. Alors, on voit après, au verset 14, qu'est-ce qui se passe ?
Il argumente.
Ouais, il argumente, et au verset 14, qu'est-ce qui se passe ?
Il renonce.
Alors, ben, qui renonce ?
Renoncer
au mal. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'un homme peut faire changer Dieu d'avis ? Est-ce que Moïse a fait changer Dieu d'avis par son discours ?
Oui, parce qu'il lui explique que tu vas quand même pas renoncer à tout ce que tu as fait.
Donc ça veut dire que par nos beaux discours, on pourrait convaincre Dieu
qu'il a tort. La prière.
Est-ce qu'on change de faire Dieu d'avis en prière ?
Dieu, il sait tout avant. Déjà, il savait que Moïse il ne voulait pas les...
Alors pourquoi il laisse Moïse faire ce discours puisque de toute façon, il avait déjà une autre... Enfin, il savait déjà l'alternative.
Oui, mais Moïse...
Dieu l'aime bien compris. Il a besoin de nous entendre.
Mais oui, qu'est-ce qu'il veut en fait, Dieu, avec nous ? Qu'est-ce qu'il veut
qu'on réalise.
Une communion.
Ouais, une communion, une relation.
Oui, une relation.
Il veut qu'il y ait un échange. Si c'est que lui qui décide de tout et puis toi tu ne fais pas, là qu'est-ce qui se passe entre Moïse et Dieu ?
Il y a une relation.
Ouais, il y a un dialogue, il y a une relation, ils échangent. Et puis Dieu, il entend ce que Moïse a à dire. Et pour lui, c'est important. Donc je pense que voilà, là ça montre bien que Moïse a une place d'intercesseur. Et Dieu, ça lui fait plaisir. Et on n'est pas des marionnettes. Il a envie qu'on lui soumette nos désirs. Voilà, il peut l'entendre. Après, il a quand même son choix qui est décidé.
Et puis, où est-ce qu'il a été inspiré pour ces... Est-ce que c'est ses propres arguments là, que Moïse sort dans sa prière ?
Il rappelle
ce que
Dieu a. Oui, il rappelle ce que
Dieu a son plan.
Bah, Dieu, il a fait.
Il rappelle Moïse, il fait que de dire tout ce que Dieu a dit
tout
au long.
Mais rappelle-toi.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si Dieu laisse Moïse argumenter, c'est parce que Moïse est en formation aussi, quelque part, dans sa relation avec Dieu, et Dieu est en train de le former pour plus tard aussi.
Pour le faire grandir.
Et donc, comme tu disais, il est en train d'instaurer un dialogue avec lui, beaucoup plus profond que le dialogue qu'a Aaron ou le peuple avec lui. Donc c'est il est en formation aussi, Moïse. Donc, là, je trouve que quelque part, ça semble juste pour Moïse.
Oui, oui. Mais en fait, il défend l'honneur de... Il lui montre qu'il faut défendre son... l'honneur de l'Éternel. Sinon, les autres, ils vont dire, bah, regarde, ce Dieu, il les a détruits. Et puis, il faut défendre aussi l'alliance qui avait été faite avec Abraham.
C'est ça.
Puis, il lui dit, mais ton plan, c'était pas ça.
Mais oui, oui,
c'était ta promesse.
Tu nous as fait, tu les as fait sortir d'Égypte. Est-ce que les Égyptiens vont dire quoi si tu nous détruis?
Est-ce que la promesse de Dieu et son plan peuvent être anéantis par la désobéissance du peuple? C'est une très bonne question. Et quand on regarde comment ça a été le cas jusqu'à présent, donc on... en fait, le plan de Dieu, sa promesse, ne peut pas être...
Non, c'est pas conditionné.
Non, pas conditionné.
Parce que le plan de Dieu inclut la désobéissance aussi.
Oui, il l'a pris sans compte. Et c'est lui qui a initié le plan au départ. Vous avez dit au début d'Exode, c'est lui qui est là, il envoie un libérateur.
Ouais.
Et la promesse dans Genèse avant, je ferai de toi une grande nation. Enfin, tout ça, c'est... ça vient avant.
Moïse, ça fait peur quand même. Quand Dieu prononce la parole de Moïse, si l'on s'imagine un peu.
Bah oui.
Ah oui, c'est
bien. Ben, il n'avait pas peur, il était quand même pas froid. Il n'avait pas froid aux yeux. Hein, parce que
oui,
quand
mais
on a pris.
Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Abraham, avec son fils Isaac, etc., où il avait foi. Et là, c'est un peu pareil. Enfin, pas, c'est pas le même, la même problématique, mais c'est un petit peu la mise à l'épreuve de la foi de Moïse également. Est-ce qu'il va abandonner le peuple? Où est-ce qu'il va, il va s'identifier au peuple?
C'est du lourd, là.
Oui, c'est du lourd.
Mais il a quand même fait une menace. Ça, par contre, c'était vrai. La menace de la sanction.
Ah oui. Mais d'ailleurs, on le
retire. Il retire sa menace, c'est vrai. Mais il ne change pas d'avis.
Mais ça arrive souvent dans la Bible où Dieu fait une menace et dans le but qui est repentant. On l'avait vu avec Ninive, quand on avait étudié Genèse cet été. Que Dieu il envoie le message comme quoi ils allaient être détruits, mais son but c'est pas de les détruire, c'est qu'il y ait repentance derrière. Donc à chaque fois que Dieu il envoie un avertissement, c'est un avertissement en fait qu'il envoie.
Et on peut quelque part dire que la colère, quand on regarde très loin en avant dans la Bible, on sait qu'en fait la colère elle n'a pas été enlevée, elle va être prise ailleurs.
Ouais.
En fait, le péché subsiste quand même. Dieu ne passe pas l'éponge sur le péché. Il dit, au jour de ma colère, je les punirai. Mais donc, il ne s'oublie pas.
Oui, ils vont être quand même punis.
On est toujours sur la condamnation, et ils sont sur la condamnation. Même nous, c'est la mort. Jésus l'a punis, l'a racheté. Mais les gens qui ne se tournent pas, ils sont toujours sur la condamnation. Et là aussi, on est dur de.
On a un couvert, comme les Israélites, il ne faut pas
rêver. Oui, c'est ça que je voulais dire, voilà.
Oui, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour le peuple en tant que médiateur, il voudrait faire quoi au maximum le.
Maximum,
pour pouvoir régler les choses.
Le maximum, c'est tue-moi à moi plutôt que le peuple.
Ouais. C'est à quel endroit
ça? C'est un petit peu plus loin, je crois.
Dans le 30.
Ouais, c'est dans le 32.
32,
c'est fin du 32.
Pardonne maintenant le péché.
Ouais.
Sinon, efface-moi de ton livre.
Ouais.
Il demande à Dieu de l'effacer de son livre. Alors, est-ce que Dieu agrée cette demande?
Non.
Non.
Non. Non.
C'est celui qui pêche qui doit être
effacé.
Effacé. C'est pas celui qui intercède.
Ça fait peur.
Oui. Mais par contre, si on fait un grand bond en avant dans l'histoire, qui a fait ça? Qui a pu réaliser cet échange? On en a parlé un peu.
Jésus.
Ben oui, Jésus, c'était le seul qui pouvait faire ça. Prendre la place. Moïse ne pouvait pas parce que Moïse c'était pas
un homme.
C'était
un homme,
c'était un homme, il n'était pas mort. Donc il ne pouvait pas prendre la place. Par contre, effectivement, plus tard, quelqu'un allait prendre la place du peuple.
Il y a un verset des tournois aussi.
Voilà, et qui ferait justement le rôle de médiateur. On peut lire, c'est dans 1 Timothée, verset 2. Je vais garder la page 781, 1 Timothée 2, 1 à 7. Je vais le lire, on va aller vite. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Et puis là, je trouve que ce passage est chouette aussi, parce qu'il reprend la relation, qu'il encourage à prier, à avoir une relation avec Dieu. Et on a un médiateur qui permet de faire le pont, sinon on ne pourrait pas s'adresser à Dieu. Ok. Alors, donc on passe à la dernière partie. À quel moment Dieu renonce-t-il à détruire le peuple ?
Verset 14, chapitre 32.
Ouais. À ce moment-là, c'est une question rhétorique, hein, mais à ce moment-là, est-ce que le peuple s'était déjà repenti ?
Non.
Non.
Non, il se repent à quel moment ? Est-ce qu'il y a repentance déjà ?
Mais tout le peuple ne se repent pas. Hein.
Ouais.
Parce que après il y a Moïse qui met une partie de côté et qui leur dit de.
Un tout petit peu avant, même si ça va aussi. Hein. Moi j'avais mis 27 aussi.
Ouais.
Non, même avant. C'est le verset 26. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel qui vienne vers moi ?» Et là, il y a effectivement une partie qui revient vers l'Éternel, mais pas tous.
Ouais.
Les Lévites.
Les Lévites qui vont être récompensés en servant le Seigneur. Donc quand même, le fait de servir Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait. Là, c'est un honneur, c'est une bénédiction.
C'est tous les enfants de Lévi. Lévi, sacrificateur, non ?
Ouais. Et parmi ces Lévites, il y a qui dans le lot dont on entend parler après au chapitre 34 juste pour faire un petit. Pour mettre un peu les choses en place. Il y a une personne qui était citée avant aussi, qui fait partie des Lévites et qui est toujours là à la fin du chapitre 34. Donc c'est qu'il est revenu. Ouais, c'est Aaron. C'est Aaron. Au chapitre 34, verset 31, Moïse les appela Aaron et tous les chefs de l'assemblée vers. Donc Aaron, il est toujours là. Ça veut dire que lui, il a quand même fait, même s'il a emmené le peuple dans la mauvaise voie, il a suivi tout ça, mais quand même, à ce moment-là, il s'est repenti. Il a compris qu'il n'avait pas fait le bon choix. Donc que fait le peuple pour plaire à Dieu ?
Il retire les ornements de ses. En fait, il s'humilie quelque part.
Ouais.
Il n'est pas ses ornements parce qu'il est. Il veut s'humilier devant Dieu.
Ouais.
C'est comme quand on dit prendre le sac et la cendre. Mmh. En fait, c'est ôter tout ce qui est beau pour s'humilier devant Dieu.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ?
Bah, il est très dur les autres.
Qui est très dur à entendre pour nous l'homme, mais.
Oui, tu es frère.
Ouais, ouais.
C'est un peu plus.
Il tue ceux qui se sont pas repentis. Ils étaient quand même prêts à aller loin pour montrer à l'Éternel qu'ils revenaient de leur mauvaise foi.
Ben alors ils sont contre les 10 commandements, parce que tu ne tueras point. Dieu.
Après là c'est une demande
de
Dieu.
Ouais.
Après au chapitre 33,
c'est écrit en fait au verset 35 que c'est l'Éternel qui a
oui, c'est lui.
Oui, mais il y a une vraie question à se poser. Quand nous, ça nous choque, on sait que Dieu a été présenté comme étant juste.
Bah, oui.
Donc ça veut dire que c'est proportionnel au péché commis. Donc c'est peut-être nous, ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que nous, on réalise en fait la gravité du péché ? Si un Dieu juste, il punit le péché par la mort, à quel point le péché est grave ?
Ah oui.
Si nous, on aurait tendance à penser, mais oui, Ben Laden, il a fait le. World Trade Center, c'est bon, on élimine, ou
prison perpétuité,
c'est presque l'équivalent, on enferme la vie, et on a l'impression que c'est proportionnel. La mort pour un homme comme ça, c'est proportionnel à son mal qu'il a fait. Et nous, on n'a pas l'impression que pour Israël, là, c'est proportionnel, tout comme quand on regarde Jésus qui est celui qui parle le plus de l'enfer, des flammes de l'enfer, et c'est lui dans la vie qui parle le plus dans des termes crus de l'enfer, on a tendance à se dire, mais. C'est pas proportionnel, on a juste menti, on a juste.
Oui, on injuste. Voilà. Ça, c'est encore une. C'est se justifier de nouveau. Bah,
on
c'est minimiser le péché.
Ouais, on dit que le péché pour Dieu, tu voles ou que tu tues, c'est pareil.
Ben oui, la sentence est la même.
C'est voilà.
Oui. Après, les conséquences dans ta vie sur Terre sont différentes.
Parce que là, en fait, c'était Dieu qui faisait un jugement temporaire, précis à ce moment-là. Alors que nous, on sait aujourd'hui que Dieu, dans sa patience, attend un jugement final.
Oui.
Donc aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus